Ça va bien?
Oui, ça va bien.
En tout cas, merci d'être à Basse-Pointe, donc ici à Martinique avec nous ce matin, donc sur cette radio. Tu as l'occasion de venir ici, je crois.
Oui, je suis venu l'an dernier.
D'accord. Et depuis, ça va?
Par la grâce de Dieu, oui.
Ça va?
Ça va.
Donc, le combat continue?
Ah, le combat ne cesse jamais.
D'accord.
Le combat cessera, c'est si, quand Jésus va revenir ou s'il m'accueille avec lui.
D'accord. Et depuis que tu es parti, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis que tu es parti? Parce que nous, on veut savoir ce qui s'est passé entre-temps, les séminaires, les moments de combat aussi.
Depuis que je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a amené à... Je suis parti en Guyana.
En Guyana.
Pour la Guyane anglaise, pendant un mois.
Mm-hmm.
Et ensuite... L'ennemi a vraiment combattu parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de positives en Guyana.
Oui.
Donc il a essayé de combattre les finances.
Ah oui, oui.
Mais bon, par la persévérance, le Seigneur a quand même permis que, il y a deux mois, le mois dernier, enfin en juin.
En juin.
Je suis partie à Tortola.
Tortola.
Mmh. Et Saint-Thomas.
Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est.
C'est les îles Vierges, mais américaines.
Uh-huh.
Juste à côté de Tortola.
Ah oui.
Et là aussi.
Et là aussi, il y a eu beaucoup de combats.
Oui, mais le Seigneur a ouvert des portes. Je retourne à Saint-Thomas en octobre, si Dieu veut.
Mm-hmm.
Et entre-temps, quand je reviens de la Martinique, après, je vais aux îles Caïmans.
Mm-hmm. D'accord.
Donc le Seigneur ouvre à nouveau les portes.
Et les choses, mais les portes sont grandes ouvertes, mais avec apparemment, d'après ce que je comprends là, avec beaucoup de combats.
Oui.
D'accord. Et donc, est-ce qu'on finit par s'habituer donc avec ce type de combat, toi qui es dedans depuis quelques années quand même?
Ben pour moi, ça devient ma vie, donc je me pose pas de questions.
Ah oui.
Puisque je suis tout le temps en combat, donc c'est ma vie, c'est tout.
Est-ce qu'on peut dire que tout le temps ce sont l'ennemi qui fait ça, ou bien parfois aussi c'est dû au hasard, c'est dû à un concours de circonstances? Puisqu'on parle de crise, tu as parlé de combat, l'ennemi attaquer tes finances. Est-ce que parfois il n'y a pas aussi le fait de la crise? On dit qu'il y a une crise financière. Comment distinguer si c'est dû à la crise ou dû à une attaque de l'ennemi?
Je pense qu'il y a deux types de combats. Il y a les combats qui sont la conséquence de nos choix personnels.
Oui, oui. Mauvais choix, souvent.
Voilà, mais il y a aussi des combats qui sont vraiment dus à l'ennemi qui combat.
Ah oui.
Donc, si tu fais rien, l'ennemi ne te combat pas.
Mm-hmm.
Mais si tu es vraiment actif, parce que même quand je pars pas, bon, on a une maison de prière, notre maison c'est une maison de jeûne et de prière où les gens viennent régulièrement, où il y a énormément de délivrances qui se font, où les vies sont transformées, où parfois des familles entières sont restaurées.
Oui.
Et bon, ben, quand on attaque l'ennemi sur ce genre de terrain, il contre-attaque. Hein.
Oui.
Il laisse pas les gens détruire son royaume et sans rien faire. Donc,
donc il ne reste pas inactif et il ne va pas rester te voir venir comme ça de ton pays, venir détruire des forteresses dans des nations comme ça.
Mais si tu ne fais rien et que tu as des combats, le plus souvent c'est des combats résultant de tes mauvais choix.
Donc,
parce que si tu ne fais rien, il ne t'attaque pas.
Oui. Il te laisse tranquille. Ça, en fait, ça,
il
en
te
fait,
laisse dormir.
Ce qui te nuit là, c'est que en fait, ça l'arrange que tu ne fasses rien.
Ben oui.
Ah oui. Mm-hmm. Et quelqu'un qui se lève pour Dieu doit s'attendre en principe à avoir des réactions.
Quelqu'un qui est
violentes.
Dans le ministère, qui se lève pour Dieu et qui n'a jamais de combat, il doit se remettre en question.
Oui. Ah oui.
Quelque chose ne va pas.
Oui. Ah.
Parce que si Jésus, qui était Jésus lui-même, a eu des combats, c'est pas nous qui n'en aurons pas.
Oui. D'accord. Au moins, ça c'est clair. Au moins, c'est où on met les pieds. Mais dans tout ton parcours séminaire, etc., qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu vois que le peuple de Dieu est un peuple de plus en plus averti? Un peuple quand même qui cherche à comprendre, qui cherche à combattre, que tu sens qu'il y a un progrès à ce niveau-là?
Tu veux la vérité?
Oui, oui, la vérité, oui, c'est, ça nous intéresse d'avoir la vérité.
Le peuple de Dieu est un Dieu, un peuple qui est fainéant.
Fainéant, pourquoi?
Il vient, il veut la connaissance, il vient assister au séminaire, mais après ça, il ne fait rien avec la connaissance qu'il a eue.
Ah, d'accord, ça veut dire que juste pour remplir la tête.
Oui, mais ça ne sert à rien, ce genre de connaissance-là.
Ah.
La connaissance enfle. Si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Ah. Ou alors les gens viennent, ils veulent une délivrance, mais en même temps, ils ne veulent pas la délivrance.
Oui. C'est-à-dire
Parce que tu as des gens qui utilisent leur état pour manipuler les gens autour d'eux.
Mm-hmm.
Ou alors, bon, on va prendre un cas dans le milieu francophone, puisqu'on est dans un milieu francophone.
Oui.
Des gens qui, parce qu'ils sont malades, reçoivent des allocations de la part de la sécurité sociale.
Ah,
et
oui.
Puis, ils vont dans un endroit, ils sont guéris. Ils sont contents d'être guéris, mais après un temps, ils se rendent compte qu'ils ne touchent plus leur allocation.
Ah, oui.
Mais ça les dérange.
Donc apparemment, il y a un choix à faire. C'est soit on veut la guérison, on veut l'argent de la CAF.
Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir le tout en même temps.
Mmh.
Et beaucoup de gens, ils veulent pouvoir continuer à bénéficier du système, mais en même temps, ils voudraient pouvoir être libres.
Oui.
Et ça, quand on est libre complètement. C'est-à-dire qu'on est aussi libéré de la dépendance par rapport au système.
Mmh. Donc, lors de notre dernière visite, nous avons rencontré un peu ton témoignage. Qu'on a encore ici, tout ton parcours, comment ça a commencé ta conversion. Donc, au niveau de tes relations avec celui que tu appelles aussi notre ennemi, d'accord. Est-ce que quand on sort de là, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on n'est pas plus visé que d'autres personnes particulièrement?
C'est sûr.
Oui.
Parce que la première chose, c'est que quand on sort de là, il essaye premièrement de nous tuer.
Oui.
Parce que comme ça, qu'on ne puisse pas témoigner, mais quand on est actif et qu'on témoigne, on est plus visé que les autres.
Mm-hmm.
Ça, c'est sûr. Mais aussi, le Seigneur nous donne une plus grande autorité et le Seigneur nous apprend à compter sur ses anges guerriers, etc.
Oui, oui.
Et il y a un truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, on apprend à se reposer dans le Seigneur et à lui remettre les combats. Il y a combat, mais on apprend à laisser le Seigneur combattre à notre place.
D'accord.
Parce qu'il est l'éternel des armées.
Alors, je vais te demander de te mettre bien en face du micro, parce que là, tu n'es pas du tout en face du micro, ce micro-là.
Ok. Excuse-moi.
Donc, tu peux le pencher un peu sur les côtés, si tu veux. Donc, tu me disais...
Non, je te disais que, au bout d'un certain temps, on apprend à se reposer dans le Seigneur.
Oui.
Et à le laisser combattre à notre place. Parce qu'il est l'éternel des armées.
Oui.
Ah. Et donc, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que nous, on se retrouve à ne rien faire. Parce qu'on doit toujours être vigilant.
Ah, oui.
Il a dit veiller et prier.
Mm-hmm.
Et ça, c'est pour tout chrétien. Donc, on doit toujours rester sur notre garde. On doit toujours être vigilant. On doit s'assurer qu'on n'ouvre pas des portes à l'ennemi.
Mm-hmm.
Parce que la moindre petite porte... Il sait comment l'enfoncer, puis entrer et faire le plus de dégâts maximum.
Donc, il attaque la vie. Tu disais à l'instant qu'il attaque les finances, qu'il attaque aussi la santé de ceux qui, par des maladies.
Par des maladies, mais aussi parfois, on est responsable parce que souvent, en tant que serviteur de Dieu, on ne prend pas le temps de se reposer.
Oui.
Et quand on ne prend pas le temps de se reposer, ben, au bout d'un certain temps, on est vraiment fatigué et c'est là que l'ennemi va attaquer.
Oui, mais est-ce qu'il attaque aussi par une suractivité spirituelle?
Oui, mais c'est là qu'on doit apprendre à se reposer.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas seulement le repos physique, c'est aussi le repos spirituel.
Alors,
on doit apprendre aussi...
Explique-toi le repos spirituel, parce que là...
on doit apprendre à prendre du temps pour se ressourcer. On ne peut pas, en tant que serviteur de Dieu... On ne peut pas donner et ne jamais se remplir. Au bout d'un certain temps, on est vide.
On est piégé.
Et un certain nombre de serviteurs ont des problèmes maintenant physiques, font des AVC ou parce qu'au départ, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir se
ressourcer,
etc. D'accord. Et c'est important.
Donc, est-ce que tu as vu ça en Martinique?
Ben, on a un exemple.
Oui.
La personne qui vient d'être enterrée.
Oui.
Moi, je suis persuadée que si elle avait pris du temps pour se reposer, elle n'en serait pas là.
Oui. D'accord. Donc, c'est un avertissement pour tous ceux comme moi.
Oui. qui prennent pas le temps de se reposer.
Qui courent toute la journée, qui n'ont pas le temps de se reposer. Merci en tout cas. Ça me fait chaud au cœur, ça, de savoir ça. Donc, Grâce, tu es en Martinique depuis quelques jours?
Oui, depuis samedi.
Depuis ta dernière venue, est-ce que tu sens qu'il y a du changement ou est-ce que c'est le même combat? Tu retombes dans le même pétrin qu'il y a une année, enfin une année que tu étais là?
Je pense que les choses sont devenues pires.
Ah, quand même.
Si. Oui. Les nouvelles que j'ai eues, c'était pas de bonnes nouvelles.
Oui. Mmh.
Je pense que l'un des problèmes qu'on a en Martinique, c'est que on n'a pas compris qu'il y a 95% de la population qui ne connaît pas l'Éternel. Mmh. Et on veut se battre pour les 5% qui ont accepté le Seigneur.
Oui.
Il est temps qu'on abandonne ce genre de combat et qu'on aille évangéliser et qu'on aille voir la grande majorité qui ne connaît pas le Seigneur.
Autrement dit, on cherche à pêcher dans un aquarium.
Mmh.
Ouais.
Oui, mais il y a l'océan qui est là.
Oui.
Et qui attend.
Oui.
Et donc là, c'est l'un des problèmes. Le deuxième problème aussi, c'est qu'on n'a pas compris qu'on était tous membres du même corps.
Mm-hmm.
Et qu'on n'a pas besoin de se combattre au niveau idéologie, au niveau de « tu prends mes membres ». On est là pour gérer l'église du Seigneur.
Mm-hmm.
Ce n'est pas l'église du pasteur Surbon ou du pasteur Moutoussami ou du pasteur X ou du pasteur Y ou du pasteur Z. C'est l'église du Seigneur.
Oui.
Jésus a dit « je bâtirai mon église ».
Mm-hmm.
Il n'a pas dit l'église de X, Y ou Z. Et si on comprenait ça, on comprendrait que tous ensemble, unis, on peut faire un meilleur travail.
D'accord.
On n'a pas besoin de se combattre les uns les autres.
Donc l'ennemi continue, d'après ce que tu nous dis là, l'ennemi continue donc à diviser.
Oui.
À diviser. Diviser pour mieux régner.
Exactement.
Et peut-être que le plus souvent, c'est avec notre accord.
Ah, on est actif dans cette division souvent.
Ah ouais.
Non seulement on donne l'accord, parce qu'on pourrait donner son accord et être passif.
Ah oui.
Mais je crois que des fois, on est actif dans cette division. On œuvre à cette division.
Mais est-ce que quelque part, on a bien compris ce que c'est qu'être chrétien? Peut-être qu'on a bien compris ce que c'est qu'être religieux. Mais est-ce qu'on a bien compris ce que c'est qu'être chrétien, qu'être un chrétien, vraiment?
Je ne pense pas.
Mmh.
Je pense qu'on a oublié qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ.
Mmh.
Quand on voit un chrétien, on devrait voir, entendre Christ.
Oui.
C'est-à-dire que quand on entend un chrétien parler, ça devrait être comme si c'était Christ qui nous parlait.
Oui.
Quand on le voit agir dans la vie de tous les jours, on devrait pouvoir se dire, ah oui, vraiment, celui-là, il est chrétien, parce que c'est comme ça que Christ agirait. Mais pour former des disciples, il faut être soi-même un disciple. Trop souvent dans les églises, on a transformé les gens en des membres d'église, mais on n'a pas pris le temps vraiment d'en faire des disciples de Christ. Et quand des fois on en a fait des disciples, on en a fait des disciples de la dénomination, des disciples de l'église en particulier, mais pas des disciples de Christ.
Ou bien des disciples du pasteur.
Oui.
Oui.
Mais pas des disciples de Christ.
D'accord. Depuis que tu viens à Martinique, d'après toi, quelles sont les armes que le diable utilise le plus souvent contre l'église, contre les hommes de Dieu?
L'argent,
oui, le pouvoir de l'argent,
la renommée,
oui.
Les femmes.
L'argent, la renommée, et on va commencer par l'argent. Alors, quelles sont les stratégies, je vous pose beaucoup de questions ce matin, quelles sont les stratégies qu'ils utilisent le plus souvent?
Les hommes de Dieu disent à leurs fidèles que c'est Dieu qui est leur source,
ah ouais.
Mais ils oublient qu'avant d'être un homme de Dieu, on est aussi infidèle. Et que Dieu est aussi notre source.
Oui.
Et dans la Bible, on n'a jamais vu les gens devenir plus pauvres parce qu'ils ont donné pour l'œuvre de Dieu.
Oui.
aussi bien la personne qui recevait que la personne qui donnait, tous les deux sortaient enrichis.
Oui.
Mais aujourd'hui, on essaye de presser le peuple de Dieu financièrement, matériellement, oui, et pour le bénéfice du pasteur ou de l'homme ou de la femme de Dieu. Et ça, c'est pas normal.
Oui. Mmh.
Je suis pour que l'on donne. Je dis pas qu'on doit pas donner. Je suis pour que l'on donne. Mais dans une église, par exemple, si on prend Acte 2, il est dit qu'ils vendaient leur maison, qu'ils déposaient le produit de la vente aux pieds
des apôtres.
Mais il est aussi dit que cet argent était redistribué
pour chacun.
Que personne n'était dans le besoin.
Ah oui. Mais là, c'est pas le cas.
Dans les églises aujourd'hui, il y a des gens, parfois des personnes âgées ou même des mères célibataires, etc., qui ne savent même pas qu'est-ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants.
Mmh.
Et à côté de ça, il y a des gens qui vivent dans l'opulence.
Oui.
Alors maintenant, je veux dire, je ne suis pas contre l'opulence.
D'accord. Mmh.
Mais je pense que dans une assemblée, tous doivent pouvoir manger à leur faim.
Mmh.
Et que tous doivent avoir un minimum.
Oui.
Ce n'est pas le rôle de l'État de pourvoir aux besoins des gens.
Mmh.
Mais c'est le rôle de l'Église.
Ce discours-là risque d'arranger M. François Hollande, là. Donc tu as dit aussi l'argent, tu as dit aussi les femmes.
Oui.
Mmh, vas-y.
Les femmes, parce que trop souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu succombent à la tentation.
Oui.
Mmh. Alors que le contrôle de soi, c'est un fruit de l'esprit que nous devrions tous avoir.
D'accord.
En tant que serviteur de Dieu.
Donc, comme de Dieu, et la troisième arme,
c'est le nom, la renommée.
La renommée.
On veut essayer de faire que son nom soit grand.
Mmh.
Mais Dieu a dit à Abraham, je ferai de ton nom un grand nom.
Oui.
Ça veut dire que quand on est au service du Seigneur, ce qu'on doit faire, c'est se donner à fond. Et l'Éternel lui-même fait que son nom va devenir grand. L'Éternel lui-même fera que les gens sauront s'ils ont tel besoin, il faut qu'ils aillent voir telle personne ou telle personne. On n'a pas besoin de faire de publicité.
D'accord. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Alors, Sœur Grace, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
En tout cas, merci d'être à Basse-Pointe, donc ici à Martinique avec nous ce matin, donc sur cette radio. Tu as l'occasion de venir ici, je crois.
Oui, je suis venu l'an dernier.
D'accord. Et depuis, ça va?
Par la grâce de Dieu, oui.
Ça va. Donc, le combat continue?
Ah ben, le combat ne cesse jamais.
D'accord.
Le combat cessera, c'est si quand Jésus va revenir ou s'il m'accueille avec lui.
D'accord. Et depuis que tu es parti, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis que tu es parti? Parce que nous, on veut savoir ce qui s'est passé entre-temps, les séminaires, les moments de combat aussi.
Depuis que je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a amené à... Je suis parti en Guyana.
En Guyana?
Dans la Guyane anglaise, pendant un mois.
Mm-hmm.
Et ensuite... L'ennemi a vraiment combattu parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de positives en Guyana.
Oui.
Donc il a essayé de combattre les finances.
Ah oui, oui.
Mais bon, par la persévérance, le Seigneur a quand même permis que, il y a deux mois, le mois dernier, en juin.
En juin.
Je suis partie à Tortola.
Tortola.
Mm-hmm. Et Saint-Thomas.
Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est.
C'est les îles Vierges, mais américaines.
Uh-huh.
Juste à côté de Tortola.
Ah oui.
Et là aussi.
Et là aussi, il y a eu beaucoup de combats.
Oui, mais le Seigneur a ouvert des portes. Je retourne à Saint-Thomas en octobre, si Dieu veut.
Mm-hmm.
Et entre-temps, quand je reviens de la Martinique, après, je vais aux îles Caïmans.
Mm-hmm. D'accord.
Donc le Seigneur ouvre à nouveau les portes.
Et les choses, mais les portes sont grandes ouvertes, mais avec apparemment, d'après ce que je comprends là, avec beaucoup de combats.
Oui.
D'accord. Et donc, est-ce qu'on finit par s'habituer donc avec ce type de combat, toi qui es dedans depuis quelques années quand même?
Ben pour moi, ça devient ma vie, donc.
Mm-hmm.
je me pose pas de questions.
Ah oui.
Puisque je suis tout le temps en combat, donc c'est ma vie, c'est tout.
Est-ce qu'on peut dire que tout le temps ce sont l'ennemi qui fait ça, ou bien parfois aussi c'est dû au hasard, c'est dû à un concours de circonstances? Puisqu'on parle de crise, tu as parlé de combat attaqué, d'ennemi attaqué tes finances. Est-ce que parfois il n'y a pas aussi le fait de la crise? On dit qu'il y a la crise financière. Comment distinguer si c'est dû à la crise ou dû à une attaque de l'ennemi?
Je pense qu'il y a deux types de combats. Il y a les combats qui sont la conséquence de nos choix personnels.
Oui, oui. Mauvais choix, souvent.
Voilà, mais il y a aussi des combats qui sont vraiment dus à l'ennemi qui combat.
Ah, oui.
Donc, si tu fais rien, l'ennemi ne te combat pas.
Mm-hmm.
Mais si tu es vraiment active, parce que même quand je ne pars pas, bon, on a une maison de prière. Notre maison, c'est une maison de jeûne et de prière où les gens viennent régulièrement.
Mm-hmm.
Où il y a énormément de délivrances qui se font, où les vies sont transformées, où parfois des familles entières sont restaurées.
Oui.
Et bon, ben, quand on attaque l'ennemi sur ce genre de terrain, il contre-attaque. Hein.
Oui.
Il ne laisse pas les gens détruire son royaume et sans rien faire. Donc
il ne reste pas inactif et il ne va pas rester te voir venir comme ça de ton pays, venir détruire des forteresses dans des nations comme ça.
Mais si tu ne fais rien et que tu as des combats, le plus souvent c'est des combats résultant de tes mauvais choix.
Donc,
parce que si tu ne fais rien, il ne t'attaque pas.
Oui, il te laisse tranquille. Ça, en fait, ça,
il
en
te
fait,
laisse dormir.
Ce qui te nuit là, c'est que en fait, ça l'arrange que tu ne fasses rien.
Ben oui.
Ah oui. Mm-hmm. Et quelqu'un qui se lève pour Dieu doit s'attendre en principe à avoir des réactions.
Quelqu'un qui est
violentes.
Dans le ministère, qui se lève pour Dieu et qui n'a jamais de combat, il doit se remettre en question.
Oui. Ah oui.
Quelque chose ne va pas.
Oui. Ah.
Parce que si Jésus, qui était Jésus lui-même, a eu des combats, c'est pas nous qui n'en aurons pas.
Oui. D'accord. Au moins, ça c'est clair. Au moins, c'est où on met les pieds. Mais dans tout ton parcours séminaire, etc., qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu vois que le peuple de Dieu est un peuple de plus en plus averti, un peuple quand même qui cherche à comprendre, qui cherche à combattre? Est-ce que tu sens qu'il y a un progrès à ce niveau-là?
Tu veux la vérité?
Oui, oui, la vérité. Oui, ça nous intéresse d'avoir la vérité.
Le peuple de Dieu est un peuple qui est fainéant.
Fainéant, pourquoi?
Il vient, il veut la connaissance, il vient assister au séminaire, mais après ça, il ne fait rien avec la connaissance qu'il a eue.
Ah ouais. D'accord, ça veut dire que juste pour remplir la tête.
Oui, mais ça ne sert à rien, ce genre de connaissance-là.
Ah.
La connaissance enfle. Si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Ah. Ou alors les gens viennent, ils veulent une délivrance, mais en même temps, ils ne veulent pas la délivrance.
Oui. C'est-à-dire
parce que tu as des gens qui utilisent leur état pour manipuler les gens autour d'eux.
Mm-hmm.
Ou alors, bon, on va prendre un cas dans le milieu francophone, puisqu'on est dans un milieu francophone.
Oui.
Des gens qui, parce qu'ils sont malades, reçoivent des allocations de la part de la sécurité sociale.
Ah,
et
oui.
Puis, ils vont dans un endroit, ils sont guéris. Ils sont contents d'être guéris, mais après un temps, ils se rendent compte qu'ils ne touchent plus leur allocation.
Ah oui.
Mais ça les dérange.
Donc apparemment, il y a un choix à faire. C'est soit on veut la guérison, on veut l'argent de la CAF.
Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir le tout en même temps.
Ah.
Et beaucoup de gens, ils veulent pouvoir continuer à bénéficier du système, mais en même temps, ils voudraient pouvoir être libres.
Oui.
Et ça, quand on est libre complètement. C'est-à-dire qu'on est aussi libéré de la dépendance par rapport au système.
Donc, lors de la dernière visite, tu nous as rencontré un peu ton témoignage que nous avons encore ici, tout ton parcours, comment ça a commencé ta conversion. Donc, au niveau de tes relations avec celui que tu appelles aussi notre ennemi, d'accord? Est-ce que quand on sort de là, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on n'est pas plus visé que d'autres personnes particulièrement?
C'est sûr.
Oui.
Parce que la première chose, c'est que quand on sort de là, il essaye premièrement de nous tuer.
Oui.
parce que comme ça qu'on puisse pas témoigner, mais quand on est actif et qu'on témoigne, on est plus visé que les autres. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais aussi, le Seigneur nous donne une plus grande autorité et le Seigneur nous apprend à compter sur ses anges guerriers, etc.
Oui, oui.
Et il y a un truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, on apprend à se reposer dans le Seigneur et à lui remettre les combats. Il y a combat, mais on apprend à laisser le Seigneur combattre à notre place.
D'accord.
Parce qu'il est l'éternel des armées.
Alors, je vais te demander de te mettre bien en face du micro, parce que là, tu n'es pas du tout en face du micro, ce micro-là.
Ok. Excuse-moi.
Donc, tu peux le pencher un peu sur les côtés, si tu veux. Donc, tu me disais...
Non, je te disais que, au bout d'un certain temps, on apprend à se reposer dans le Seigneur et à le laisser combattre à notre place, parce qu'il est l'éternel des armées.
Oui. Ah.
Et donc, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que nous, on se retrouve à ne rien faire. Parce qu'on doit toujours être vigilant.
Ah,
il a dit veiller et prier.
Mm-hmm.
Et ça, c'est pour tout chrétien. Donc, on doit toujours rester sur notre garde. On doit toujours être vigilant. On doit s'assurer qu'on n'ouvre pas des portes à l'ennemi.
Mm-hmm.
Parce que la moindre petite porte, il sait comment l'enfoncer, puis entrer et faire le plus de dégâts maximum.
Donc il attaque la vie. Tu disais à l'instant qu'il attaque les finances, qu'il attaque aussi la santé de ceux qui, par des maladies.
Par des maladies, mais aussi parfois, on est responsable parce que souvent en tant que serviteur de Dieu, on ne prend pas le temps de se reposer.
Oui.
Et quand on ne prend pas le temps de se reposer, ben, au bout d'un certain temps, on est vraiment fatigué et c'est là que l'ennemi va attaquer.
Oui, mais est-ce qu'il a attaqué aussi par une suractivité spirituelle?
Oui, mais c'est là qu'on doit apprendre à se reposer.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas seulement le repos physique, c'est aussi le repos spirituel.
Alors, on doit apprendre aussi... Explique-nous un peu le repos spirituel, parce que là...
On doit apprendre à prendre du temps pour se ressourcer. On ne peut pas, en tant que serviteur de Dieu... On ne peut pas donner et ne jamais se remplir. Au bout d'un certain temps, on est vide.
On est épuisé. Mmh.
Et un certain nombre de serviteurs ont des problèmes maintenant physiques, font des AVC, ou, parce qu'au départ, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir se
ressourcer,
etc.
Ah, d'accord.
Et c'est important.
Donc, est-ce que tu as vu ça en Martinique?
Ben, on a un exemple.
Oui.
La personne qui vient d'être enterrée.
Oui.
Moi, je suis persuadée que si elle avait pris du temps pour se reposer, elle n'en serait pas là.
Oui. D'accord. Donc, c'est un avertissement pour tous ceux comme moi.
Oui. qui ne prennent pas le temps de se reposer.
Qui courent toute la journée et qui n'ont pas le temps de se reposer. Merci en tout cas. Ça me fait chaud au cœur ça, de savoir ça. Donc, grâce, tu es en Martinique depuis quelques jours?
Oui, depuis samedi.
Depuis ta dernière venue, est-ce que tu sens qu'il y a du changement? Est-ce que c'est le même combat? Tu retombes dans le même pétrin qu'il y a une année? Enfin, une année que tu étais là.
Je pense que les choses sont devenues pires.
Ah, quand même.
Si. Oui. Les nouvelles que j'ai eues, c'était pas de bonnes nouvelles.
Oui. Mmh.
Je pense que l'un des problèmes qu'on a en Martinique, c'est que on n'a pas compris qu'il y a 95% de la population qui ne connaît pas l'Éternel. Mmh. Et on veut se battre pour les 5% qui ont accepté le Seigneur.
Oui.
Il est temps qu'on abandonne ce genre de combat et qu'on aille évangéliser. Et qu'on aille voir la grande majorité qui ne connaît pas le Seigneur.
Autrement dit, on cherche à pêcher dans un aquarium.
Mmh.
Ouais.
Oui, mais il y a l'océan qui est là.
Oui.
Et qui attend.
Oui.
Et donc là, c'est l'un des problèmes. Le deuxième problème aussi, c'est qu'on n'a pas compris qu'on était tous membres du même corps.
Mm-hmm.
Et qu'on n'a pas besoin de se combattre au niveau idéologie, au niveau de « tu prends mes membres ». On est là pour gérer l'église du Seigneur.
Mm-hmm.
Ce n'est pas l'église du pasteur Surbon, ou du pasteur Moutoussami, ou du pasteur X, ou du pasteur Y, ou du pasteur Z. C'est l'église du Seigneur.
Oui.
Jésus a dit... Je bâtirai mon église.
Mm-hmm.
Il n'a pas dit l'église de X, Y ou Z. Et si on comprenait ça, on comprendrait que tous ensemble, unis, on peut faire un meilleur travail.
D'accord.
On n'a pas besoin de se combattre les uns les autres.
Donc l'ennemi continue, d'après ce que tu nous dis là, l'ennemi continue donc à diviser.
Oui.
À diviser. Diviser pour mieux régner.
Exactement.
Et peut-être que le plus souvent, c'est avec notre accord.
Ah, on est actif dans cette division souvent.
Ah ouais.
Non seulement on donne l'accord, parce qu'on pourrait donner son accord et être passif.
Ah oui.
Mais je crois que des fois, on est actif dans cette division. On œuvre à cette division.
Mais est-ce que quelque part, on a bien compris ce que c'est qu'être chrétien? Peut-être qu'on a bien compris ce que c'est qu'être religieux. Mais est-ce qu'on a bien compris ce que c'est qu'être chrétien, qu'être un chrétien, vraiment?
Je ne pense pas. Mmh. Je pense qu'on a oublié qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ.
Mmh.
Quand on voit un chrétien, on devrait voir, entendre Christ.
Oui.
C'est-à-dire quand on entend un chrétien parler, ça devrait être comme si c'était Christ qui nous parlait.
Oui.
Quand on le voit agir dans la vie de tous les jours, on devrait pouvoir se dire, ah oui, vraiment, celui-là, il est chrétien, parce que c'est comme ça que Christ agirait. Mais pour former des disciples, il faut être soi-même un disciple. Trop souvent dans les églises, on a transformé les gens en des membres d'église, mais on n'a pas pris le temps vraiment d'en faire des disciples de Christ. Et quand des fois on en a fait des disciples, on en a fait des disciples de la dénomination, des disciples de l'église en particulier, mais pas des disciples de Christ.
Ou bien des disciples du pasteur.
Oui.
Oui.
Mais pas des disciples de Christ.
D'accord. Depuis que tu viens en Martinique, d'après toi, hein, quelles sont les armes que le diable utilise le plus souvent contre l'église, contre les hommes de Dieu?
L'argent,
oui, le pouvoir
la
de l'argent.
Renommée,
oui.
Les femmes.
L'argent, la renommée, et, on va commencer par l'argent. Alors, quelles sont les stratégies, je vous pose beaucoup de questions ce matin, quelles sont les stratégies qu'ils utilisent le plus souvent?
Les hommes de Dieu disent à leurs fidèles que c'est Dieu qui est leur source, mais ils oublient qu'avant d'être un homme de Dieu, on est aussi infidèle. Et que Dieu est aussi notre source.
Oui.
Et dans la Bible, on n'a jamais vu les gens devenir plus pauvres parce qu'ils ont donné pour l'œuvre de Dieu.
Oui.
Aussi bien la personne qui recevait que la personne qui donnait, tous les deux sortaient enrichis.
Oui.
Mais aujourd'hui, on essaye de presser le peuple de Dieu financièrement, matériellement, oui. Et pour le bénéfice du pasteur ou de l'homme ou de la femme de Dieu. Et ça, c'est pas normal.
Oui. Mmh.
Je suis pour que l'on donne. Je dis pas qu'on ne doit pas donner. Je suis pour que l'on donne. Mais dans une église, par exemple, si on prend Acte 2, il est dit qu'ils vendaient leur maison, qu'ils déposaient le produit de la vente aux pieds
des apôtres.
Mais il est aussi dit que cet argent était redistribué.
Pour
et
chacun.
Que personne n'était dans le besoin.
Ah oui. Et là, c'est pas le cas.
Dans les églises aujourd'hui, il y a des gens, parfois des personnes âgées ou même des mères célibataires, etc., qui ne savent même pas qu'est-ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants.
Mmh.
Et à côté de ça, il y a des gens qui vivent dans l'opulence.
Oui.
Alors maintenant, je veux dire, je ne suis pas contre l'opulence. D'accord.
Mmh.
Mais je pense que dans une assemblée, tous doivent pouvoir manger à leur faim.
Mmh.
Et que tous doivent avoir un minimum.
Oui.
Ce n'est pas le rôle de l'État de pourvoir aux besoins des gens.
Mmh.
C'est le rôle de l'Église.
Ça risque d'arranger M. François Hollande, là. Donc tu as dit aussi l'argent, tu as dit aussi les femmes.
Oui.
Mmh, vas-y.
Les femmes, parce que trop souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu succombent à la tentation.
Oui. Mmh.
Alors que le contrôle de soi, c'est un fruit de l'esprit que nous devrions tous avoir.
D'accord.
En tant que serviteurs de Dieu.
Donc, comme de Dieu, et la troisième arme,
c'est le nom, la renommée.
La renommée.
On veut essayer de faire que son nom soit grand.
Mmh.
Mais Dieu a dit à Abraham, je ferai de ton nom un grand nom.
Oui.
Ça veut dire que quand on est au service du Seigneur, ce qu'on doit faire, c'est se donner à fond. Et l'Éternel lui-même fait que son nom va devenir grand. L'Éternel lui-même fera que les gens sauront s'ils ont tel besoin, il faut qu'ils aillent voir telle personne ou telle personne. On n'a pas besoin de faire de publicité.
D'accord. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours donc en direct sur les ondes FM Espoir et pour ceux qui nous écoutent par internet, www.fmespoir.fr. Grâce, ça va?
Oui, ça va.
Tu tiens le coup?
Ah, grâce à Dieu, oui.
D'accord. Grâce, on parle souvent, Martinique, ici, nous, de combat spirituel. Mais quand on dit combat spirituel, est-ce qu'on sait parfois de quoi on parle? Est-ce que nous sommes parfois conscients de qui est notre adversaire?
Je crois que c'est le problème. Le problème, c'est que tout chrétien doit comprendre qu'on a un seul adversaire. Que les gens ne sont pas nos ennemis. Que l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est Satan.
Oui.
Que oui, il a des démons, etc. Mais surtout, on doit comprendre qu'à aucun moment, les personnes ne sont nos ennemis. Mais c'est l'esprit qui les manipule qui est notre ennemi.
Et tu dis ça parfois, ça veut dire que très souvent, nous, on confond quoi?
On confond, on prie contre les gens, on ne doit jamais prier contre les gens, on doit prier pour les gens.
Est-ce qu'on ne souhaite pas parfois le malheur de l'autre pour justifier sa spiritualité?
Oui, mais ça, c'est pas normal.
Oui.
Et il y a certaines prières qu'on fait que moi, j'appelle des prières de sorcellerie.
Oui, c'est-à-dire?
Mais à partir du moment où on commence à prier pour que telle personne meure ou que telle, c'est de la sorcellerie.
Oui, oui. Mais on peut le faire même appuyer sur la parole de Dieu. On peut dire que David souhaitait la mort de ses ennemis, etc. Alors, souvent j'ai entendu des gens qui priaient et qui disaient je renvoie à l'envoyeur.
Non, on ne doit pas faire ça. Mais David, on ne peut pas prendre comme exemple David. David était un homme de l'Ancien Testament.
Oui.
Et quand il parlait des ennemis, il parlait vraiment en tant qu'un chef d'armée et il parlait d'ennemis concrets.
Oui.
Mais nous, on n'a pas des armées qui sont contre nous, ce ne sont pas des armées physiques,
oui,
ce
oui.
sont des armées spirituelles.
Oui, oui.
Et les armes que l'on a, d'ailleurs la Bible dit, on ne combat pas contre la chair et le sang.
Oui.
Donc quand on commence à combattre contre des personnes, on sort des limites que le Seigneur nous a données en tant que nous, chrétiens qui appartenons à la nouvelle alliance.
Mmh.
Et quand on renvoie quoi que ce soit et plus mauvais encore, on le renvoie cette fois plus fort, c'est tout simplement on fait de la sorcellerie.
D'accord. Est-ce que dans ce combat spirituel, ma sœur Grâce, il est nécessaire que le chrétien connaisse qui est son ennemi en détail, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de précision? Est-ce que parfois il n'y a pas trop de détails, trop de précisions? Est-ce que parfois il n'y a pas des personnes qui connaissent Satan mieux que Dieu lui-même?
De toute manière, la première chose qu'on doit connaître, c'est connaître notre Dieu.
Oui.
Si on connaît vraiment notre Dieu, si on connaît les principes bibliques, on connaîtra l'ennemi.
Oui.
Pourquoi on connaîtra l'ennemi? Parce que le royaume de l'ennemi, c'est tout simplement une copie
oui.
du royaume de Dieu. Mais pour glorifier Satan et non plus pour glorifier Dieu. Mais les principes qui sont appliqués dans le royaume de l'ennemi qui fait que ce royaume est si efficace, ce sont des principes bibliques.
Oui.
Mmh. Donc, je veux dire que par exemple, la Bible nous demande de verser la dîme,
mmh.
mais dans le royaume de l'ennemi, quand on est actif, on doit aussi verser la dîme, et parfois plus que la dîme.
Oui.
Non? Il y a beaucoup de choses que, par exemple, la valeur du jeûne.
Oui.
Les gens qui travaillent dans le camp adverse jeûnent plus et mieux que les chrétiens, ce qui n'est pas normal.
Ah. Ils jeûnent plus et mieux, ils sont plus fidèles dans le jeûne que les chrétiens.
Oui.
Et comment tu expliques ça?
Je t'ai dit, les chrétiens sont fainéants. Les chrétiens veulent tout de suite. Et si possible, sans effort.
Sans se priver d'alimentation.
Mais le jeûne, par exemple, moi ça me fait rire quand j'entends des églises dire qu'ils jeûnent. Alors les gens mangent avant de venir à l'église.
Oui.
Et ils disent qu'ils jeûnent, mais à 15h ils ont terminé le jeûne.
Oui, alors qu'ils ont mangé avant de venir.
Et ils ont mangé avant de venir, donc je ne vois pas tellement comment ils ont jeûné.
Oui.
Donc, les gens qui viennent chez moi pour 3 jours de jeûne, Pendant 3 jours, ils ne boivent que de l'eau.
Oui.
Et c'est tout.
Oui, pendant 3 jours.
Pendant 3 jours, ils ne mangent pas.
Oui.
Ils ne mangent rien du tout.
Oui. Mais ici, on prend un petit café, on prend une petite salade de matin avant d'aller jeûner.
Mais oui, mais ça, c'est pas un jeûne.
Oui. Ah.
D'accord. Et ensuite, les gens disent, ah oui, mais Daniel... Oui, mais Daniel, c'était un jeûne de 21 jours.
Oui.
C'était pas un jeûne de 3 jours.
Mmh.
D'accord.
D'accord. Donc, les grands jeûnes comme ça, 21 jours ou autres, apparemment, d'après ce que tu dis, on peut prendre quelque chose le matin.
Oui, le Seigneur, mais ça dépend comment le Seigneur va diriger.
Oui, c'est d'accord? Dieu qui dirige. Hein?
Mais en général, de toute manière, ce ne sera pas 3 repas par jour, ce sera 1 repas par jour.
Oui.
Donc ça peut être le repas du midi, si tu choisis le repas du midi ou le repas du soir, mais ce sera un seul repas par jour. Et ce ne sera pas un repas avec viande et poisson, etc.
Ah,
ce
d'accord.
sera léger. Légumes.
Oui.
Enfin, légumes et fruits.
D'accord. Mais quand Bible dit qu'il y a des démons qui ne sortent par le jeûne et la prière, comment tu peux expliquer ça?
C'est parce qu'il y a des démons qui aiment la nourriture.
Mm-hmm.
Quand tu vas en jeûne, quand tu prives ton corps d'un certain nombre de choses, il y a des démons qui sortent.
Oui. Mmh.
Et puis aussi, il y a des démons qui se nourrissent des toxines qui sont dans notre corps. Aujourd'hui, même la médecine reconnaît que le jeûne, c'est un moyen de détoxifier le corps.
Oui. Ça élimine les toxines.
Ça élimine les toxines, mais ça aussi élimine les démons en même temps.
Oui. Parce qu'il y en a qui sont attachés aux toxines que nous avalons toute la journée.
Mm-hmm.
D'accord. On parle effectivement, là tu as parlé de quelques éléments qui peuvent être utilisés, quelques armes qui peuvent être utilisées dans le combat spirituel. On disait parler de la connaissance de l'ennemi. Tu disais que le royaume du diable est une copie du royaume de Dieu.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire que, comme tu as parlé de jeûne de prière, que...
Quand on apprend à bien connaître son Dieu,
oui.
on saura reconnaître les tactiques de l'ennemi.
Oui.
Donc, je vais prendre un cas dans la vie de tous les jours hein, qui n'est vraiment pas du tout spirituel. Comment on apprend aux gens à reconnaître les faux billets? Ce n'est pas en étudiant les faux billets. C'est en étudiant la vraie monnaie.
Oui.
Et on leur montre comment reconnaître un vrai billet. Et à partir du moment où ils voient un billet qui ressemble, si ça n'a pas tous les signes qu'un vrai billet a, ils savent que c'est de la fausse monnaie.
Oui.
D'accord. Mais on ne peut pas les faire apprendre toutes les fausses monnaies parce que chaque jour, il y a des nouvelles fausses monnaies.
Mmh. Ouais, voilà.
Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils connaissent bien les vrais billets.
Oui.
Et automatiquement, ils sauront reconnaître la fausse monnaie.
Oui.
Mais le chrétien, il ne prend pas du temps pour bien connaître son Dieu. Il prend pas... Donc, quand l'ennemi vient, parce qu'il sait se déguiser en ange de lumière, mais mm-hmm. c'est un déguisement. Mais si on ne connaît pas vraiment qui est la lumière, on aura tendance à croire que celui qui est déguisé en ange de lumière, c'est lui qui est la vraie lumière.
Donc, est-ce que justement, quelque part, l'ennemi ne fait pas tout pour nous empêcher de nous tourner vers la parole, de connaître Dieu? Est-ce que la lecture même de la parole de Dieu n'est pas mise à mal, attaquée par l'ennemi?
Oui, mais de toute manière, moi je dis toujours, on ne peut pas empêcher à l'ennemi de faire son travail. Nous faisons le nôtre.
Oui.
Mmh. Je dis toujours aux gens, personne, quand il est saint d'esprit, n'ira dans la rue tout nu.
Oui.
D'accord. Et bien le chrétien, trop souvent, il est dans la rue tout nu parce qu'il n'a pas revêtu son armure.
Quand tu parles d'armure, tu parles des armures spirituelles.
Je parle des armures spirituelles, c'est tout le temps qu'on doit être. Parce qu'on est sur un combat. À partir du moment, le jour où on est devenu chrétien, on est rentré dans un combat contre l'ennemi.
Mmh.
Et tout soldat, il a sa tenue.
Mmh.
D'accord. Un soldat qui est pris dans le camp de l'ennemi, mais avec sa tenue, il est un prisonnier de guerre. En tant que prisonnier de guerre, il y a les accords de Genève qui s'appliquent à lui.
Attends, on reprend. Tu dis un soldat qui est pris
dans le camp de l'ennemi, mais avec sa tenue, en tenue de soldat.
Oui.
D'accord? Il est un prisonnier de guerre.
Oui.
En tant que prisonnier de guerre, il a des droits.
Oui.
Parce qu'il y a la Convention de Genève qui s'applique.
Oui.
Mais si un soldat, on sait que c'est un soldat, mais qu'il est pris dans le camp de l'ennemi en tenue civile,
oui,
il est traité en tant qu'espion.
Oui.
Il n'a aucun droit.
Oui.
Parce que l'ennemi va le traiter n'importe comment et son pays ne va pas le reconnaître. Attends. Parce qu'aucun pays ne reconnaît ses espions.
D'accord. Mais en traduction français courant, alors ça veut dire quoi concrètement?
En traduction français courant,
oui,
si tu es revêtu de ton armure et que l'ennemi te fait prisonnier, mais tu as ton armure.
Oui.
Dieu, tu vas pouvoir faire appel à Dieu, tu vas pouvoir faire appel à ses anges, tu vas, la prière va être vite efficace parce que tu n'étais pas, tu n'as pas été là où personne ne t'a envoyé, mmh, tu n'as pas été là n'importe comment,
oui,
tu y es arrivé en tant que soldat et malheureusement tu as été fait prisonnier. D'accord?
D'accord.
On va pouvoir prier pour toi, tu seras mis à mal mais pas autant que tu vas, tu sais que tu es un chrétien, tu sais qu'en tant que chrétien, bon je vais prendre un cas banal, en tant que chrétien tu sais très bien que tu ne dois pas aller voir les quimboiseurs.
Oui, oui.
Mais tu es dans une situation et tu veux agir vite et tu trouves que Dieu il prend trop de temps.
Oui.
Tu vas chez le quimboiseur.
Mm-hmm.
Quand tu sors du quimboiseur, tu seras bien chargé.
Oui.
Parce que l'ennemi sait très bien que tu n'as pas le droit de venir.
D'accord.
Non. Mais après, quand tu auras toutes sortes de problèmes, à moins que tu reviennes vers le Seigneur, que vraiment tu te repentes et que tout, rien ne va marcher pour toi. Puisque tu as négligé d'aller vers le Seigneur, tu as choisi d'aller vers l'ennemi. L'ennemi se moque de toi, l'ennemi te marche dessus.
Parce que, mais est-ce qu'en réalité, ça se, des chrétiens peuvent en aller jusque-là?
Mais ça se fait tout le temps.
Ça se fait tout le temps, oui.
Dans toutes les églises, tu as des chrétiens qui vont voir les quimboiseurs.
Oui.
Parce qu'ils trouvent que la prière, ça prend trop de temps.
Ça prend tant de temps. Ouais.
Donc, ils veulent avoir
la réponse du fast-food. Fast-food spirituel.
Ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Et à cause de cela, mais ils sont, il y a des chrétiens qui ont tout le temps des problèmes.
Oui.
Et tu sais, au bout d'un certain temps, tu ne peux plus délivrer ces personnes.
Hein? Parce que trop engagées, trop liées.
Parce qu'au bout d'un certain temps, au départ, elles endurcissent leur cœur. Le Seigneur leur parle, leur parle, leur parle, leur parle. Mais au bout d'un certain temps, c'est Dieu qui endurcit leur cœur.
Oui.
Regarde ce qui s'est passé pour Pharaon.
Oui.
Au départ, c'est lui qui endurcissait son cœur.
Oui.
Mais au bout d'un certain temps, le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon et il n'y avait plus rien à faire. Sa destinée était fatale.
Était scellée.
Mmh. Et parfois, aujourd'hui, il y a des chrétiens, le Seigneur leur a donné seconde, troisième, dixième, quinzième, millième chance. Mais ils continuent de faire les mêmes choses. Si tu continues de faire les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Et parce qu'il continue de faire les mêmes choses, au bout d'un certain temps, le Seigneur arrête.
Oui. Et à ce moment-là, ils peuvent crier, ils peuvent supplier, mais est-ce qu'ils auront l'impression que le ciel est fermé?
Le ciel sera fermé.
Oui.
Mais ce n'est pas parce que Dieu le voulait.
Oui.
C'est parce qu'ils ont été au bout de la patience de Dieu.
Oui. Mmh.
Regarde ce qui s'est passé avec Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. Mais ils ont tellement murmuré dans le désert. Ils ont tellement douté. Ils ont tellement remis en question ce que Dieu disait que finalement, ils sont tous morts dans le désert à l'exception de Josué et Caleb parce que eux, ils avaient cru à la parole de Dieu. Et ils se sont appliqués à agir selon la parole de Dieu. Donc les enfants sont rentrés, mais tous les adultes, tous ceux qui étaient sortis adultes d'Égypte, sont morts dans le désert. Aujourd'hui, il y a des gens qui je pourrais parler de qualifier un peu de zombies spirituels. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà morts.
C'est-à-dire morts spirituellement.
Mm-hmm.
Pourquoi, à force de jouer à cache-cache avec Dieu, à force d'aller loin dans certaines choses, à force de persister dans certaines voies?
Quand on persiste, on continue. Et je ne parle pas des nouveaux convertis, ça n'arrive pas. Ce n'est pas pour les nouveaux convertis, hein. C'est pour des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui savent ce que Dieu veut, mais qui choisissent de faire le contraire.
Ah, c'est un choix délibéré.
C'est un choix.
Est-ce que ce n'est pas comme Esaü, des profanes qui a méprisé le droit d'aînesse? Est-ce que on ne méprise pas l'avertissement de Dieu, l'appel de Dieu?
Mais quand il a méprisé son droit d'aînesse, il n'a jamais retrouvé après.
Oui, malgré ses cris.
Non.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu la bénédiction de son père. Parce qu'au départ, il avait méprisé son droit d'aînesse.
Mmh. Mais tu as parlé un instant de ceux qui vont chez les chrétiens, qui vont chez les sorciers pour peut-être avoir une réponse plus rapidement que celle, entre guillemets, de Dieu. Mais est-ce que c'est la seule manière d'être dans la sorcellerie consciente ou inconsciente dans l'église de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des choses qu'on fait inconsciemment qui sont des actes de sorcellerie dans l'église de sa vie chrétienne?
Des prières, par exemple.
Des prières, toi, oui, tu as dit ça, les prières contre les gens, contre les églises, que Dieu ferme telle église, que Dieu arrête tel frère, des machins comme ça. C'est...
Et puis il y a aussi une autre chose qu'on fait dans les églises et qu'on... Comment on peut appeler ça? Ah, zut. J'avais le mot et puis il est parti.
On fait soit des impôts pour Dieu.
Oh, il y a toute la médisance.
La médisance.
Et le fait de vouloir contrôler, et notamment contrôler le pasteur.
Ah oui.
Et ça, c'est quelque chose qui est propre à ceux qui s'appellent intercesseurs. Parce que je ne crois pas qu'un véritable intercesseur qui connaît sa place, c'est quelqu'un qui sait s'humilier, c'est quelqu'un qui sait rester sous l'autorité du pasteur. Et ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à dominer le pasteur et à dire quelque part, ah oui, mais le pasteur, il n'a pas la bonne vision, etc.
Oui.
Je parle des pasteurs qui sont des hommes de Dieu. Dieu leur a donné une vision. Je crois que si on n'est pas d'accord avec la vision de l'église, eh ben, on va chercher une autre église.
Oui.
Tout simplement.
Oui.
Mais on ne commence pas à vouloir contrôler le pasteur.
Oui. Et tu dis que ça, c'est un acte de sorcellerie.
Ça, c'est de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est essayer de contrôler et de manipuler.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc, on peut le faire parfois à travers l'argent même.
Ah,
il y a des gens qui vont et qui disent au pasteur, ah oui, mais si tu prêches contre telle chose, nous, on ne paie plus notre dîme.
Oui. C'est une forme de chantage.
Oui.
Oui. Mais est-ce qu'ils ne font pas beaucoup plus sournoisement que faire un don au pasteur, mais en même temps derrière, lui imposer des choses?
Oui, aussi.
Oui.
Mais c'est comme ça que l'ennemi rentre dans les églises parfois.
Oui.
Il va faire rentrer des gens dans les églises qui auront beaucoup d'argent, parce qu'il peut leur donner de l'argent, et il va manipuler l'église à travers, ils vont manipuler l'église à travers les dons qu'ils vont faire.
Oui.
Parce qu'au bout d'un certain temps, ils vont donner tellement d'argent que le pasteur ou l'église va dépendre de ces gens-là.
Oui.
Pour fonctionner. Et dans leur fonctionnement, eh ben, ils vont commencer. La première chose qu'ils vont faire, ils vont essayer de diminuer la prière.
Il y a trop de prières.
Alors, ils vont faire en sorte que les réunions de prière deviennent moins souvent, que ça devienne plus des réunions sociales que vraiment des réunions de prière.
Oui.
Et la deuxième chose, ils vont essayer de diminuer la force de la parole de Dieu en empêchant au pasteur, justement parce que ces gens vont devenir tellement prédominants dans l'église à cause de l'argent qu'ils y amènent, que le pasteur va commencer à avoir peur de prêcher sur certains sujets.
Oui, surtout s'il sait que cette personne qui apporte de l'argent à l'église est à certains travers
Voilà.
Il évitera d'en parler.
Et ça, c'est de la sorcellerie.
Oui.
Pourtant, c'est pas de la sorcellerie dans le sens de on va pas prendre des poupées vaudou, etc. Mais c'est quand même de la sorcellerie.
C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus tactique, beaucoup plus commercial. D'accord. Mais est-ce que le fait pas d'écouter son horoscope à la radio, ces choses-là, est-ce que c'est de la sorcellerie aussi?
Mais si. Ça, oui. C'est de la... De toute manière, la Bible parle contre la divination. Et les horoscopes, c'est de la divination.
Mm-hmm.
La seule personne qui connaît l'avenir, c'est le Seigneur.
Oui.
D'accord. Et ça crée des liens très forts, les horoscopes.
Mm-hmm.
Et ça, au bout d'un certain temps, ça va faire taire la voix de l'Esprit de Dieu. Ce sont des esprits familiers qui vont parler à la personne. Mais la personne ne s'en rendra même pas compte. Et elle croira que, oh oui, mais le Seigneur m'a dit, oui, mais c'est quel Seigneur?
Oui.
C'est lui l'éternel Dieu.
Il y a Seigneur et Seigneur.
Ce sera un Seigneur avec un petit S.
Oui.
Mais ce ne sera pas le Seigneur.
D'accord, on fait une pause musicale avec notre sœur Grâce et après quoi, on va laisser nous apporter la parole que Dieu aura mis sur son cœur.